Bonjour à tous. Je fais juste signe à Sylvain et Anna parce que c'est moi qui avais gardé la télécommande toute la semaine. Donc, on va voir si ça marche. Hier, j'ai été à la journée de l'église libre de Châteaudun qui recevait Frédéric Monceau, un orateur de l'association Portes Ouvertes. C'est une association que beaucoup d'entre vous connaissent. Elle travaille auprès des chrétiens qui vivent dans des pays où la foi chrétienne est interdite, en tout cas où les chrétiens sont persécutés. Dans beaucoup de pays, les chrétiens n'ont pas accès à la Bible. Alors ça, je le savais depuis longtemps déjà, mais cela m'a fait encore réfléchir. Il y a d'une part des pays où les Bibles sont rares, et d'autre part des pays où les librairies chrétiennes proposent des centaines de modèles de Bibles différentes. En France, une fois que l'on a fait le choix de la version, parmi plus d'une vingtaine de traductions, on a ensuite le choix du format et ensuite le choix de la couleur de la couverture. Alors j'ai fait une recherche en ligne sur le site d'une librairie chrétienne. J'ai tapé « Bible » et j'ai compté environ 180 modèles de Bible proposés. Alors en fait, je n'ai pas vraiment compté, il y avait 15 pages de 12 Bibles. Donc après, il y a le calcul à faire. 180 modèles différents. Alors je ne dis pas cela pour critiquer l'abondance, ni pour culpabiliser, mais cette réflexion m'a interpellé. Dans les pays qui interdisent la foi chrétienne, la liberté de culte n'existe pas non plus. Même à la maison, certains, dans ces pays, à la maison, il n'y a pas le droit de se réunir pour étudier la Bible. La liberté de parler de sa foi n'existe pas non plus. C'est même parfois puni par la loi. Alors toutes ces choses, je le savais déjà, mais de l'entendre, je me suis dit, qu'est-ce que ces informations me poussent à faire? Est-ce que cela m'invite à simplement prier pour eux? Est-ce que je dois me sentir coupable de ne pas profiter encore plus de notre liberté? Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que l'orateur a partagé hier, c'est qu'il n'avait pas du tout un discours ou un ton culpabilisant. Il n'avait pas non plus un discours de parent. Alors, quand je dis de parent, c'est parce que les parents ont parfois un discours avec leurs enfants, par exemple quand ils ne mangent pas pendant le repas. Par exemple, quand l'enfant refuse de manger à table, il arrive que les parents lui disent « Tu sais, tu devrais manger, tu devrais profiter de la chance que tu as parce qu'il y a des enfants dans d'autres pays qui n'ont rien à manger. » Alors moi, quand j'étais petit et lorsque j'entendais ce genre de discours, je ne comprenais pas pourquoi les adultes disaient cela. Peut-être ça vous est arrivé aussi. Je me posais la question « Si je mange mon plat, en quoi cela va résoudre le problème ?» Ce n'est pas en mangeant, moi, que ceux qui ont faim auront plus de nourriture. Alors, je ne comprenais pas trop ce discours. Et je vous avoue qu'il m'est arrivé de sortir exactement cet argument devant mon fils qui refusait de manger. Parce que quand on a passé plus d'une heure à cuisiner une soupe et qu'après 20 minutes de négociation, notre enfant refuse catégoriquement de manger sa soupe en nous disant « Je ne veux pas la manger parce qu'elle n'a pas la même couleur que d'habitude. » Eh bien, en tant que parent, on se remet en question. Qu'est-ce qu'on a fait à notre enfant pour qu'il devienne comme ça? Et puis, on perd notre maîtrise de soi. Et on dit des choses pas très constructives. Alors, pour en revenir à notre orateur d'hier, il n'a pas sorti cet argument avec la liberté religieuse. Il n'a pas dit « Ah ben dans d'autres pays, ils n'ont pas sa liberté, donc vous, eh bien vous devez aller à l'église tous les jours. » Non, il n'a pas tenu ce discours simpliste. Son intervention était plutôt pour nous témoigner de la joie qu'il y a à suivre Jésus malgré les persécutions et malgré les épreuves. Cela dit, la situation des chrétiens persécutés m'interpelle sur notre propre situation à nous. La semaine dernière, nous avons lu une parabole où un homme riche découvrait que son intendant gaspillait ses biens. Et donc, on avait eu ce thème du gaspillage. Nous nous sommes posé la question, et nous, que faisons-nous des biens ou avec les biens que Dieu nous confie? Notre vie est-elle bien au service de Dieu? Alors, il ne s'agit pas de culpabiliser à chaque fois que l'on prend une journée pour se détendre ou à chaque fois que l'on dépense pour des loisirs, mais il s'agit de savoir pourquoi et pour qui nous vivons. Et aujourd'hui, je vous propose de lire la suite de ce texte, le texte de la semaine dernière. J'avais annoncé que j'allais continuer la réflexion parce que nous n'avons pas eu le temps de tout voir. Je vous propose donc de lire le texte depuis le début, de résumer ce que nous avons vu dimanche dernier et de poursuivre notre découverte du texte. Je vous invite donc à lire dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 16. On avait vu les versets 1 à 9, on va poursuivre jusqu'au verset 14. Donc Luc 16, 1 à 14. Jésus dit aussi à ses disciples, « Un homme riche avait un intendant. On vint lui rapporter qu'il gaspillait ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire à ton sujet ? Rends compte de ta gestion, car tu ne pourras plus gérer mes biens. » L'intendant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens ? Travailler la terre ? Je n'en ai pas la force. Mendier ? J'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent chez eux quand je serai renvoyé de mon emploi. » Il fit venir chacun des débiteurs de son maître et dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?»« Je dois 100 tonneaux d'huile d'olive, » répondit-il. Il lui dit, « Voici ton reçu, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? » « Je dois 100 mesures de blé, » répondit-il. Et il lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de l'intendant malhonnête à cause de l'habileté dont il avait fait preuve. En effet, les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que ne sont les enfants de la lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous accueillent dans les habitations éternelles lorsqu'elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » En entendant tout cela, les pharisiens qui aimaient l'argent se moquaient de lui. Cette parabole est assez intrigante, car l'homme riche fait l'éloge de l'intendant infidèle, l'intendant malhonnête. De plus, Jésus semble encourager ses disciples à adopter une attitude similaire. Jésus leur dit, verset 9, « Faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous accueillent dans les habitations éternelles lorsqu'elles viendront à vous manquer. » Il dit aussi au verset 11, « Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables ?» Que signifient ces paroles? Nous avions vu la semaine dernière qu'il fallait regarder le contexte du passage pour mieux comprendre la parabole. Et j'insiste sur le fait que ce soit une parabole. Et donc, beaucoup d'éléments sont symboliques. Alors, rappelons le contexte, rapidement, de cette parabole. C'est mon premier point. Je ne vais pas redire tout ce qui a été dit la semaine dernière, mais rappeler les points essentiels, parce que tout le monde n'était pas forcément présent. Donc, le contexte. Dans le contexte, Jésus, au chapitre 15, accueille des gens de mauvaise vie. Jésus accueille des pécheurs. Les pharisiens, membres d'un parti religieux juif, font des réflexions entre eux. Ils murmurent. Ils sont choqués de voir que Jésus se mélange avec des pécheurs. Jésus leur raconte, en réponse à leurs réflexions, Jésus leur raconte plusieurs paraboles. Elle concerne une brebis perdue et retrouvée, une pièce perdue et retrouvée, et un fils perdu et retrouvé. Jésus veut faire comprendre aux pharisiens que Dieu est joyeux lorsqu'un pécheur se repent et revient à Dieu. Autrement dit, Dieu est joyeux lorsque ceux qui sont perdus sont retrouvés auprès de lui. Jésus explique donc sa démarche auprès des gens de mauvaise vie. Il les côtoie car il souhaite leur annoncer l'amour de Dieu. Il souhaite ramener la brebis perdue. La parabole du fils perdu et retrouvé précède notre parabole. Elle nous aide à mieux comprendre notre passage. Dans cette parabole, donc du fils perdu et retrouvé, l'homme a deux fils. Le premier demande à son père, enfin le premier qui est le plus jeune, demande à son père sa part d'héritage, et avec l'argent qu'il reçoit, il part de la maison et il gaspille tous ses biens dans la débauche. Une fois qu'il n'a plus aucun sou, il se retrouve employé dans une porcherie, il garde des porcs, mais il n'arrive pas à s'en sortir. Il se rend compte de son état et donc il retourne chez son père pour lui demander de l'accueillir, non pas comme un fils, mais comme un ouvrier, un simple ouvrier. Lorsqu'il s'approche de la maison, son père le voit et court à sa rencontre. Il l'accueille non pas comme un fils ni comme un ouvrier, mais comme un prince. Il organise une fête. Sauf que le frère aîné, ne voit pas cela d'un bon œil. Lui, il n'a pas dilapidé l'argent du père. Il a toujours été aux côtés de son père, à travailler dans les champs. Et jamais le père ne lui a organisé une fête. Il est en colère, il refuse de participer aux réjouissances. Le père va donc le voir, il l'invite à se réjouir, car son plus jeune fils était perdu, mais il est maintenant retrouvé. Le fils aîné, en colère, représente les pharisiens. Ils ne voyaient pas d'un bon œil que Jésus accueillait des pécheurs. Pourtant, ils devraient se réjouir de voir des pécheurs désirer revenir à Dieu. Mais ils critiquent. Quel rapport avec notre parabole de l'intendant infidèle ? C'est mon deuxième point. Quel rapport ? Il me semble que notre parabole est un complément de la parabole du fils perdu et retrouvé. Ils ont tous les deux beaucoup de points communs. On l'a dit la semaine dernière. Par exemple, il est question d'argent dans les deux paraboles. Il est question de deux personnages qui gaspillent l'argent qui leur a été confié. Ces deux personnages se retrouvent dans la galère. Le fils n'a plus un rond et l'intendant est sur le point d'être renvoyé. Dans les deux histoires, nos personnages sont face à l'épreuve et réfléchissent à comment s'en sortir. Le seul moyen de s'en sortir, c'est de compter sur la générosité du père ou du maître. Enfin, les deux histoires peuvent nous paraître injustes. Quand je raconte la parabole du fils prodigue à certaines personnes qui la connaissent moins, eh bien ces personnes, souvent, trouvent l'accueil du père injuste. Il est trop gentil. C'est choquant. Et lorsque nous lisons la parabole de l'intendant infidèle, nous ne comprenons pas, parce que le discours de Jésus semble injuste. Et c'est aussi choquant. Alors comment comprendre cette parabole de l'intendant infidèle ? C'est mon troisième point. Comment la comprendre ? Rappelons une fois de plus que c'est une parabole. L'homme riche fait l'éloge de son intendant à cause, non pas du fait qu'il gaspillait ses biens, mais il fait l'éloge de son intendant à cause de son habileté. En grec, ce mot habileté fait référence à la capacité de se sortir d'une crise. La capacité à se sortir d'une crise. Comment le gérant est-il sorti de la crise ? Il a misé sur la générosité de son maître. En tant que gérant, il avait un certain pouvoir qui lui était délégué. Il agissait au nom du maître. Lorsqu'il réduisait les dettes des débiteurs, il le faisait au nom de l'homme riche, si bien que les gens étaient reconnaissants envers le gérant, mais aussi envers le maître. Dans cette histoire, les richesses injustes symbolisent la grâce imméritée. Tout comme le fils prodigue s'en est sorti grâce à la générosité du Père, l'intendant infidèle s'en est sorti grâce à la générosité du Maître. Et cela nous semble injuste. La réaction du Maître est choquante, tout comme la réaction du Père. Alors regardons maintenant ce que Jésus nous enseigne à partir de cette parabole. Et nous verrons qu'il y a encore des liens à faire avec la parabole du fils prodigue. Quatrièmement, regardons les enseignements de Jésus. On peut commencer par le verset 9. Je ne fais pas dans l'ordre, mais voilà, j'ai choisi un ordre qui peut nous aider à mieux suivre. Donc regardons le verset 9. « Faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous accueillent dans les habitations éternelles lorsqu'elles viendront à vous manquer. » Ce que Jésus veut dire, à mon avis, c'est que nous devrions profiter des richesses injustes, c'est-à-dire de la grâce. Nous devrions partager la grâce imméritée que nous avons reçue, le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu. Tout est gratuit, car Jésus a payé à notre place. En réduisant les dettes de ses débiteurs, enfin des débiteurs de l'homme riche, l'intendant s'est fait des amis et il s'est assuré des habitations chez eux. Quand il n'aura plus de quoi se loger, il pourra compter sur ces gens-là. Pour nous, en saisissant et en annonçant la grâce, ce sont des demeures éternelles que nous nous assurons. À mon avis, c'est ce que Jésus veut dire en combinant, en combinant la réalité de la parabole et notre réalité à nous, qui sont les demeures éternelles. Regardons maintenant le verset 8. Le maître fit l'éloge de l'intendant malhonnête à cause de l'habileté dont il avait fait preuve. En effet, les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que ne le sont les enfants de la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cette parole est assez étrange. Normalement, ce sont les enfants de la lumière. Ce sont les enfants de la lumière dans d'autres livres de la Bible. Normalement, les enfants de la lumière dans d'autres passages de la Bible, ce sont les enfants de Dieu. Les enfants de la lumière sont les enfants de Dieu. Et donc, ils ne sont plus pécheurs. En tout cas, ils sont pardonnés du péché. Ils sont dans la vérité de Dieu. Alors que les enfants du monde désignent souvent des pécheurs non repentis encore. Et comment ça se fait que Jésus ici inverse les choses? Par exemple, dans l'évangile selon Jean, les enfants de la lumière, ce sont les enfants de Dieu qui sont dans la lumière de Dieu, qui sont dans la vérité. Et toujours dans l'évangile selon Jean, eh bien, les enfants du monde, ce sont les pécheurs qui ne se sont pas encore tournés vers Dieu. Mais ici, Jésus inverse les choses. Il dit du bien des enfants du monde et il dit que les enfants de la lumière ne font pas mieux que les enfants du monde. Comment comprendre cette phrase de Jésus ? Il me semble que Jésus s'adresse ici aux pharisiens, qui sont bien présents lors du discours. Jésus s'adresse aux pharisiens qui pensent être des enfants de la lumière, des enfants de lumière. Cela me rappelle un autre passage des évangiles, même de l'évangile de Luc, au chapitre 5, où Jésus dit « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » En fait, Jésus est venu pour toute l'humanité, car tout le monde est pécheur, et donc tout le monde a besoin de changer d'attitude. Mais certains pensent être meilleurs que les autres. Ils se croient bien portants. Ils se croient justes, ils pensent ne pas avoir besoin de médecins. Ce sont les pharisiens. Ils se croient enfants de lumière. À l'inverse, les enfants du monde, comme le fils perdu, comme l'intendant infidèle, lorsqu'ils se rendent compte qu'ils ne sont rien sans leur père, sans leur maître, alors ils changent d'attitude, ils font preuve d'habileté. Ils saisissent la grâce imméritée. Les enfants de ce monde sont ainsi plus habiles que les soi-disant enfants de lumière. Regardons encore la suite, versets 11 et 12. Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables ? Et si vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ? Les richesses injustes, ce sont les biens que Dieu nous confie par grâce et que nous ne méritons pas. Il nous confie la gestion de ces biens, non pas pour les gaspiller, mais pour les utiliser à sa gloire. Cela me rappelle encore une autre parabole que l'on appelle la parabole des talents. Dans cette parabole des talents, il y a encore un homme riche qui part en voyage. Il confie ses biens à trois de ses serviteurs. Le premier reçoit 5 talents. Alors, c'est symbolique, hein, on ne sait pas exactement ce que sont ces talents, mais voilà, il en reçoit 5. Il les investit pour travailler et gagne 5 autres talents. Le deuxième en reçoit 2. Il les investit pour travailler et en gagne 2 autres. Le troisième en reçoit un seul. Il a peur du maître, alors il ne veut pas prendre de risques, il n'investit pas. Au retour du maître, les 2 premiers serviteurs sont récompensés. En revanche, le troisième est repris et même traité très sévèrement. Ce que Dieu nous confie, nous sommes invités à le faire fructifier. Dans notre parabole, les richesses injustes représentent la grâce et tout ce que Dieu nous confie, tous les bienfaits de Dieu que nous devons mettre à son profit. Les biens d'autrui, ce sont les biens de notre maître. Ce ne sont pas les nôtres, mais ceux de notre maître. Il nous les confie, ils ne nous appartiennent pas. Dieu nous accorde du temps, il nous accorde de l'argent, il nous accorde sa parole, la Bible. Il nous accorde d'avoir des proches, il nous accorde une famille spirituelle, l'Église, et la liberté de culte. Que faisons-nous avec ces biens ? Quel type d'intendant sommes-nous ? Alors pour conclure, terminons avec les versets 13 et 14. Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. En entendant tout cela, les pharisiens qui aimaient l'argent se moquaient de lui. Dans la parabole du fils prodigue, le fils était parti avec l'argent reçu de son père et il l'a gaspillé. L'argent était son maître. Il servait l'argent. Il s'est rendu compte de sa condition misérable et il a misé sur la générosité du Père. Dans la parabole de l'intendant, l'argent était aussi son maître. Il a gaspillé l'argent qui lui était confié, mais il s'est rendu compte de sa condition et il a tout misé sur la générosité de son maître. Qu'en est-il des pharisiens ? C'est la question qui est posée dans le passage qui reste ouverte. Mais qu'en est-il de nous ? Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de priorité dans la vie. Un chrétien peut partir en vacances et aller au restaurant sans problème, sans culpabiliser. Mais quel type de gérant sommes-nous ? Quel maître servons-nous ? Alors j'aimerais vous laisser un défi pour la semaine à venir. Alors, il pourrait y avoir plein d'autres défis. Et je m'inclus aussi dedans. Mais j'aimerais vous proposer de faire 2 choses cette semaine en réponse à ce que nous avons découvert ou redécouvert dans cette parabole. Première chose, prendre un temps de qualité avec Dieu, comme on a parlé Dominique. Prendre un temps de qualité avec Dieu par la prière ou par la méditation de la parole de Dieu. Alors peut-être que vous le faites déjà. Je vous invite alors à le faire en ayant en tête cette invitation de Jésus à être de bons gérants de ce qu'il nous confie. Donc voilà, première chose, un temps de qualité avec Dieu, avec cet axe, comment être de bons gérants. Et deuxième chose, prendre du temps pour la famille de Dieu. Alors je ne parle pas de participer à une étude biblique ou devenir occulte. Je parle de quelque chose de personnel, d'informel et de relationnel. Par exemple, simplement prendre des nouvelles de quelqu'un, prier pour une personne dont on n'a pas l'habitude, aller rendre visite à quelqu'un ou inviter quelqu'un. Voilà, et puis si vous avez besoin d'un numéro de téléphone, n'hésitez pas à me demander. Et si vous n'avez pas le temps cette semaine, vous pourriez le planifier pendant cette semaine. Alors que Dieu fasse de nous de bons gérants de sa grâce et de tous ses bienfaits. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Père, merci pour tout ce que tu nous offres. La liberté de nous réunir, la liberté d'avoir accès à ta parole et surtout ta grâce, le pardon de nos fautes, la réconciliation avec le Père. Aide-nous à être de bons gérants de toutes ces grâces, à en profiter, mais aussi à en faire profiter à ceux qui nous entourent, que ce soit dans l'Église ou dans le monde, autour de nous, que nous puissions être de bons gérants des biens que tu nous confies. Et que l'Église soit aussi un témoignage dans la gestion de cette grâce, dans l'annonce de cette grâce imméritée, cette grâce qui paraît injuste, mais que tu as choisie pour nous justifier devant toi. Merci pour ces paroles qui nous interpellent, et merci pour ton amour, tout est bien fait. Au nom de Jésus, Amen.